recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors c'est avec ce texte de l'Ascension que je vous souhaite la bienvenue pour ce culte. D'ailleurs, vous voyez, il y a une belle croix derrière vous. Alors, j'avais peut-être une petite question aux enfants. Est-ce que vous savez ce qu'est l'Ascension ? Bon, il n'y a pas beaucoup d'enfants, il n'y a qu'une petite famille, qu'une grande famille. Il y a d'autres enfants, mais ils sont plus petits derrière. Est-ce que vous savez ce que c'est l'Ascension ? Alors, j'ai pas beaucoup de succès. Par contre, est-ce que vous reconnaissez cette croix ? Alors, je pense que... Alors, il n'y a pas Jean-Pierre qui est là, mais peut-être Sylvain. Sylvain, le reculet, la croix du reculet. Et c'est vrai que pour aller à cette croix du reculet, il faut faire l'ascension du Jura, l'ascension du reculet. C'est pour ça que jeudi, c'était la fête de l'ascension où Jésus, il est monté au ciel vers son Père. Et qu'il monte au ciel vers son Père, c'est un peu la finalité de... Donc l'Église aujourd'hui célèbre la montée au ciel, la montée de Christ vers Dieu, son Père. Et en montant au ciel, Jésus accomplit le sens de sa résurrection, sa mort et sa résurrection. Entrer avec son corps dans la gloire de Dieu. Si le Christ quitte ses disciples en s'élevant, il ne les laisse pas tout seuls, hein. Il les laisse avec le Saint-Esprit qui va les accompagner durant toute leur vie et durant la nôtre aussi. Donc, il continue à nous accompagner aujourd'hui. Jésus est toujours là avec nous aujourd'hui, avec le Saint-Esprit. Alors, soyez vraiment les bienvenus dans ce moment de culte. Nous voulons rendre gloire à Dieu tous ensemble vers notre Père et vers justement cette ascension à laquelle nous participerons nous aussi. Alors, on ne sait pas quand, mais en tout cas, nous participerons nous aussi. Alors, je vous propose qu'on mette ce culte, ce moment en famille, je dirais en famille mérinoise, aussi bien pour ceux qui nous regardent depuis chez eux, que nous soyons ensemble pour louer notre Seigneur et puis aussi pour glorifier Dieu. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons demander ta présence ce matin. Merci parce que tu es là avec nous. Merci parce que tu es avec nous ici à Mérin, mais aussi, Seigneur, dans tous les lieux du monde où on se rencontre pour glorifier ton nom. Et merci pour ce temps en famille où nous pouvons parler de toi, entendre ta voix, que ce soit par les chants, par la prédication, par d'autres moyens, par l'école du dimanche. Mais Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, et que tu nous accompagnes et que nous puissions être encouragés par tes paroles. Alors Seigneur Jésus, nous voulons être attentifs à ce que toi tu veux nous dire. Amen.
Là pour... Bonjour. Déjà, pour introduire ce temps de louange, je vous propose un petit saut dans le passé, à une époque où le téléphone portable n'existait pas, donc c'est super vieux. Et puis, même plus loin encore, entre 700 et 800 ans avant Jésus-Christ. Il y avait des gens, hein, qui vivaient à cette époque-là, et même il y en avait qui allaient aussi au culte. Ils rendaient un culte à Dieu en Israël, le même Dieu que celui auquel nous voulons rendre un culte ce matin. Alors à propos de leur culte, Dieu demande au prophète Amos de leur transmettre la parole suivante. Alors je lis dans Amos, au chapitre 5, les versets 21 à 27. Attention, c'est la parole de Dieu. « Je déteste vos fêtes, je ne veux plus les voir, dit le Seigneur. Je ne peux plus sentir vos assemblées solennelles, ni les sacrifices complets que vous venez me présenter. Je n'éprouve aucun plaisir. à vos offrandes de grains. Je ne regarde même pas les veaux gras que vous m'offrez en sacrifice de paix. Éloignez de moi le vacarme de vos cantiques. Je ne peux plus entrer, plus entendre le son de vos harpes. Que le droit jaillisse comme une source, que la justice coule comme un torrent intarissable. Pendant les 40 années au désert, m'avez-vous présenté des sacrifices et des offrandes, gens d'Israël ? Vous avez porté les symboles de votre Dieu roi, Sikout, et de votre Dieu étoile, Kiyun. Ces objets que vous vous êtes fabriqués. C'est pourquoi je vous exilerai bien au-delà de Damas, déclare le Seigneur. Son nom est Dieu de l'univers. Ça pique un peu, hein ? Alors ce passage, il nous rappelle que, en fait, que notre louange, elle n'a de sens que si finalement notre vie entière est consacrée à Dieu. Oui, on peut faire du vacarme avec nos cantiques, et je vais y contribuer, mais pas pour se comporter de manière injuste le reste de la semaine, hors du droit et de la justice, selon Dieu. Comme nous allons le faire dans les chants qui viennent, nous pouvons louer l'Éternel, nous pouvons célébrer sa bonté, nous réjouir de son œuvre de salut pour nous, venir à ses pieds, l'adorer, chanter sa gloire. Mais qu'en est-il le reste de la semaine ? Alors je vous propose que ce temps de louange soit pas seulement celui qui introduit ce culte, mais qui reflète celui de notre vie de louange de la semaine passée et qu'il anticipe celui de la semaine à venir. Et comme le dira le dernier chant, ben c'est parfois difficile. Mais le texte, il termine en rappelant que c'est le Dieu de l'univers qui nous parle. C'est pas un Dieu comme Sikout et Kiyun, là, ces idoles, des dieux à notre échelle, des dieux qu'on aurait fabriqués nous-mêmes, des dieux qui seraient finalement aussi limités que nous. C'est le Dieu de l'univers. Et son plan de salut nous montre à quel point il veut notre bien et à quel point il nous aime. Alors louons-le de tout notre cœur, de toute notre vie, le dimanche et tous les autres jours.
Les enfants qui connaissent le chant et qui ont envie de faire les gestes pour le premier chant, vous êtes bienvenus.
Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre montrer la voie, de la terre à la croix. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là.
Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tout contre toi, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là.
Je chanterai louange à son nom.
tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé.
Voilà, les enfants pourront rejoindre l'école du dimanche. Je vais juste prier pour eux avant. Nous allons prier pour eux avant. C'est plus juste. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te remettre les enfants. Seigneur, merci pour, aussi pour les moniteurs, Seigneur, pour les semences qu'ils sèment dans ces jeunes vies. Alors, Seigneur, nous voulons aussi qu'ils puissent sentir ta présence. Seigneur, que tu les renouvelles et que les enfants puissent entendre ta voix. Alors, bénis-le pendant ce moment où ils sont avec toi et avec leurs moniteurs. Amen.
Bonjour à chacun, à chacune. Ça va ? Vous m'entendez bien ? Formidable. On a eu juste un petit souci à la dernière et puis il est déjà réglé. C'est le top. Merci Thierry. J'ai une question à vous poser. J'ai besoin de vous, hein ? Quelle est votre ville préférée ? Mérin, carrément. Pardon ? Lille. Pourquoi Lille ?
Parce que je suis
née
là-bas.
T'es née là-bas. T'es une ch'ti. On dit comme ça, hein, c'est juste. Lille, on est dans le département du Nord. Lille. Votre ville préférée, Cyril ?
Biarritz.
Pardon ?
Biarritz.
Biarritz. Tu vas faire du surf à Biarritz ? Ah, j'en connais d'autres. Ok, Biarritz. On est sur des villes françaises, c'est bien. François, Bordeaux, quelque chose à dire ?
Beyrouth.
Beyrouth. Beyrouth. Tu as grandi là-bas. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de Beyrouth, de ta vie à Beyrouth ?
Confortable.
Confortable.
Malgré le fait que... Ouais,
Beyrouth, capitale du Liban. Autre ville préférée ? Alors là, il faut que tu nous expliques pourquoi, Jonas. Jonas, explique-nous pourquoi.
Accueilli comme il faut.
Ok, merci.
Je sais pas.
Quelle est votre ville préférée ?
Genève, parce que j'avais rencontré le
Seigneur. Genève, parce que tu y as rencontré le Seigneur. Marianne, Rome. Ah. C'est la plus belle ville du monde, on l'appelle la ville éternelle. Merci, Rome. Intéressant.
New York.
New York, Marc. Pourquoi New York ?
J'y étais, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas, un doute.
Ok. Ça donne pas un peu le tournis New York, comme ça ?
Ah oui, les buildings, j'aime bien.
Les buildings de New York. Ah, vous avez tous des villes préférées. Enfin, tous. Il y a plusieurs... Quelqu'un d'autre pour sa ville préférée ?
Munich.
Munich. Pourquoi Munich ?
Parce que ma famille est là et que je passe mon enfance.
Ah, les racines, hein ? Les racines Munich en Allemagne. Je n'ai visité que l'aéroport à Munich.
Guyane.
Moi, j'aime Genève. J'aime Genève. Je l'aime pour son histoire, je l'aime pour sa beauté, pour sa vie, sa culture, ses rencontres, pour son génie, son énergie, sa créativité. En si peu d'espace, Genève nous offre un extrait de l'humanité dans toute sa richesse et sa diversité. De surcroît, dans un écrin, hein, entre lacs et montagnes, avec les campagnes, les villes, le centre-ville de Genève, j'aime passionnément Genève. Et en même temps, Genève est aussi bruyante, épuisante, étouffante, violente, arrogante, injuste. Autant de raisons qui conduisent certains de ses habitants à rêver d'aller ailleurs, soit en fuyant régulièrement vers une résidence secondaire, au vert, au calme, à la neige, soit en la quittant définitivement pour d'autres rivages. Et peut-être que vous diriez la même chose de votre ville préférée que vous aimez tant, Beyrouth, Biarritz, Lille, New York, Munich, Merin. Un lieu où vous vous sentez bien, où vous aimez revenir, puis en même temps, il y a des choses qui vous heurtent. En fait, cette réflexion de la ville préférée, elle touche à un questionnement qui est bien plus profond. Un questionnement qui concerne des hommes et des femmes comme vous et moi, qui sont des descendants d'une humanité errante et nomade, des hommes et des femmes comme vous et moi, qui aspirent, je crois, à trouver le lieu pour lequel ils ont été faites. Le lieu du vrai repos, où chacun, chacune pourrait dire « Là, je suis à la maison. » La somme considérable d'énergie, de temps, d'argent que nous consacrons aux biens immobiliers, à l'ameublement, au confort matériel, n'est-elle pas justement cette somme, le signe de cette quête humaine du lieu idéal ? IKEA, Pfister Meubles, Maison du Monde, Zara Home, H&M Home. Toi aussi, construis ton petit coin de paradis, nous dit-on. Une quête. Le seul qui n'est pas surpris par cette aspiration profonde, c'est le Dieu de la Bible. C'est notre Créateur. Parce que s'il est réellement le fondement de notre être, s'il est vraiment le soutien de toute notre vie, alors vivre loin de lui, c'est se condamner à errer. Et inversement, trouver le lieu pour lequel vous et moi nous sommes faits, c'est forcément trouver le lieu où il habite, où il est. Alors on entend déjà ces voix autour de nous et peut-être même en nous qui s'élèvent pour dire « Ok, attendre une telle réalité, celle d'un monde qu'on ne touche pas, avec un Dieu qu'on ne voit pas, n'est-ce pas à la fois fou et stupide ? Est-ce que c'est pas passer ça à côté de la vraie vie ? Se faire des films, des plans ? La tentation, elle est forte de bâtir et d'investir pour ici et maintenant en reléguant la perspective lointaine d'habiter avec Dieu au cantique du dimanche matin ou au message des funérailles. Pourtant, Le chapitre 54 d'Ésaïe lève un pan du voile sur le lieu où Dieu demeure. Ce chapitre nous aide à voir sa beauté unique et il renouvelle notre amour pour elle. Je dis « elle » parce que cette réalité, c'est la ville de Dieu. C'est Sion, la Jérusalem renouvelée, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem ultime, la destination que Dieu offre à quiconque place sa confiance en Jésus-Christ, son Fils. Parce que c'est bien du Seigneur Jésus dont il est question dans le contexte de ce chapitre. Ésaïe vient d'annoncer sa venue sous les traits d'un serviteur qui est fidèle à l'Éternel, un serviteur qui offre sa justice parfaite pour le péché de son peuple. C'est la consolation de toutes les consolations. C'est celle que Dieu avait annoncée à Jérusalem dès le chapitre 40 du livre d'Ésaïe au verset 1. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute. » Et à ce stade-là de la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe nous permet de mesurer alors les effets du sacrifice parfait du roi serviteur sur la ville de Dieu. Une ville que nous allons peut-être découvrir, redécouvrir ce matin. Une ville peuplée, restaurée, glorieuse. Peuplée, restaurée, glorieuse. Mais avant la lecture d'Ésaïe, il me faut faire un petit disclaimer, quelques mots d'explication, pour être tout à fait honnête avec vous. Parce que ces dernières heures, en parlant du texte choisi pour ce matin avec des proches, j'ai réalisé que dans ma préparation depuis quelques semaines, j'avais forcément des a priori, une certaine lecture qui dépend de mes convictions théologiques, à savoir que toute la Bible parle de Jésus pour l'annoncer, aboutit à Jésus quand il est arrivé et découle ensuite de ce que Jésus a fait depuis son œuvre parfaite. Ça, c'est mon grand schéma théologique. Toute la Bible parle et aboutit au Christ. Et en lisant ou en écoutant la lecture dans quelques instants de ce chapitre, vous réaliserez peut-être qu'il serait assez facile d'instrumentaliser les mots, les lignes que nous allons lire. Les instrumentaliser en particulier au regard de la situation géopolitique que nous connaissons, qui est compliquée et sur lesquelles je crois qu'il nous faut être très prudents avant de prendre parti. Et je refuse de faire de ce pupitre ou de ma position de pasteur une chaire de politique internationale. D'ailleurs, je ne crois pas un instant qu'Ésaïe 54 nous parle de politique internationale, et encore moins de gestion des conflits ou de justice et d'injustice d'un État ou d'un autre. Encore une fois, je crois que la Bible, elle nous parle du Christ, de ce qu'il est venu accomplir, réussir, pour que nous entrions là-dedans. Et ce matin, je vous propose d'écouter et de méditer le texte d'Ésaïe 54 dans cette perspective. Peut-être qu'on a juste besoin, avant que Claude nous le lise, de prendre 10 secondes de réflexion personnelle, de mise à disposition devant Dieu pour lui demander qu'il nous parle. 10 secondes, et puis Claude nous lira le texte d'Ésaïe 54.
Jérusalem, toi, stérile, qui n'avais plus d'enfants, pousse des cris de joie. Toi qui ne mettais plus de fils au monde, éclate en cris de joie et d'allégresse et d'enthousiasme. Car le Seigneur te dit, toi, la femme abandonnée, tu auras plus d'enfants qu'une femme ayant son mari. Agrandis la tente où tu vis, tant d'étoiles supplémentaires, ne regarde pas la dépense, allonge les cordes de ta tente, consolide tes piquets. Car tu vas t'agrandir de tous côtés, tes descendants prendront possession des territoires voisins et tes villes désertées seront repeuplées. Tu ne seras plus humilié, n'aie donc pas peur, tu ne seras plus déshonoré, ne te sens plus honteuse. Tu oublieras l'humiliation que tu ressentais dans ta jeunesse. Tu ne penseras plus au déshonneur que tu éprouvais quand tu étais veuve. Car tu as pour époux celui qui t'a créé, celui qui a pour ton nom, qui a pour nom le Seigneur de l'univers. C'est le Dieu saint d'Israël qui te libère, celui-là même qu'on nomme le Dieu de toute la terre. Comme une femme abandonnée, tu étais plongée dans le chagrin. Mais ton Dieu déclare, « Comment peut-on rejeter la femme que l'on a choisie quand on était jeune ? Pendant un court instant, je t'avais abandonnée, mais dans ma grande tendresse, je te reprends avec moi. Dans un accès momentané de colère, j'ai refusé de te voir, mais dans mon amour sans fin, je te garde ma tendresse. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis, moi qui te prends ta cause en main. Je vais faire aujourd'hui comme au temps de Noé. J'avais promis alors que le déluge ne submergerait plus la terre. Je promets de même aujourd'hui de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. Malheureuse Jérusalem, secouée par la tempête, sans personne pour te réconforter. Eh bien moi, dit le Seigneur, je vais te rebâtir en pierre décorée, refaire tes fondations en saphir, le haut de tes murailles en rubis, tes entrées en cristal et tous tes remparts en pierre précieuse. Tes enfants seront tous mes disciples, ils vivront dans une paix profonde. Tu seras vraiment inébranlable, à l'abri de toute oppression, tu n'auras plus rien à craindre. Tu seras délivré de la terreur, elle ne te menacera plus. Si on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. D'ailleurs, celui qui t'attaquera succombera devant toi. C'est moi, remarque-le, qui crée le forgeron, qui active le feu et qui produit toutes sortes d'armes. Mais c'est moi aussi qui crée celui qui est chargé de les détruire. Toute arme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Celui qui t'accusera au tribunal, tu le feras condamner. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà les droits que je leur garantis, déclare le Seigneur.
Merci. D'abord, cette ville, Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, est une ville peuplée. A priori, la précision peut paraître étrange, c'est dans le texte, elle est peuplée, mais c'est le contexte qui nous aide à comprendre pourquoi l'on dit que cette ville ultime est peuplée. D'abord, Jérusalem y est présentée comme jugée, dévastée, vidée de ses habitants. Tous sont soit morts, soit en exil à cause de leur rejet de Dieu. La ville bruyante, la ville violente, la ville arrogante, la ville injuste contre Dieu, la ville chérie de Dieu pourtant, qu'il s'était choisi pour y demeurer, cette ville ne voulait plus de Dieu. Et dans la Bible, l'image de l'adultère prostitution illustre l'horreur de l'infidélité de Jérusalem. Tout comme Jérusalem, nous sommes nous aussi coupables d'idolâtrie envers Dieu. Parce que si facilement nous cherchons ailleurs qu'en lui ce que lui seul peut nous donner. C'est ça l'idolâtrie. C'est chercher ailleurs qu'en Dieu ce que Dieu peut nous donner. Si facilement nous voulons profiter des bienfaits qu'il nous accorde dans sa générosité pour en user comme bon nous semble, en toute indépendance. Au lieu de l'avoir, lui, pour centre, nous nous plaçons nous-mêmes au centre, mes besoins d'abord, le reste ensuite. Quotidiennement, mes amis, nous sommes pris en flagrant délit d'adultère avec d'autres dieux de pacotille. Pourtant, comme le disent nos liturgies à la suite d'Ésaïe 6, Dieu est saint, saint, saint. Qui peut subsister un seul instant dans sa présence ? Qui mérite d'habiter avec lui ? Si l'on prend au sérieux sa sainteté et notre indigence, alors la réponse, elle est simple. Personne ne peut subsister en sa présence. Mais regardez ce qu'Ésaïe annonce alors. Jérusalem, toi stérile, qui n'avais plus d'enfants, pousse des cris de joie. Toi qui ne mettais plus de fils au monde, éclate en cris de joie et d'enthousiasme. Car le Seigneur te dit, toi, la femme abandonnée, tu auras plus d'enfants qu'une femme ayant son mari. Agrandis la tente où tu vis. Tant d'étoiles supplémentaires. Ne regarde pas à la dépense. Allonge les cordages de ta tente. Consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. Tes descendants prendront possession des territoires voisins et tes villes désertées seront repeuplées. Dans cette ville, Dieu désire habiter, demeurer avec des hommes et des femmes issus d'une humanité abîmée qui erre loin de lui. Comment c'est possible ? Comment Dieu peut vouloir habiter avec des hommes et des femmes qui choisissent d'habiter loin de lui ? Eh bien, c'est la suite qui répond à cette question. Après le sacrifice du roi serviteur, si la ville de Dieu peut être peuplée, c'est parce que chacun de ses habitants, chacune de ses habitantes a été pardonnée, restaurée dans une relation parfaite avec Dieu. Mes amis, que jamais l'on ne se lasse de cela. Que jamais l'on ne se met à considérer le pardon de Dieu comme normal et mérité. C'est le contraire du cours naturel des choses. On est en train de rêver. Par la bouche d'Ésaïe, Dieu vient donc au secours de nos doutes, de notre faiblesse, de nos inconséquences. Il proclame à nos cœurs pourquoi notre espérance est à toute épreuve. D'abord, notre espérance, elle est solide parce qu'elle repose sur la relation exclusive de Dieu avec ses serviteurs et ses servantes. une relation si bien établie que même le péché le plus insupportable de l'adultère n'a pas réussi à la défaire. Versets 4 à 8. Tu ne seras plus humilié, n'aie donc pas peur. Tu ne seras plus déshonoré, ne te sens plus honteuse. Tu oublieras l'humiliation que tu ressentais dans ta jeunesse. Tu ne penseras plus au déshonneur que tu éprouvais quand tu étais veuve. Car tu as pour époux celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. C'est le Dieu saint d'Israël qui te libère, celui-là même qu'on nomme le Dieu de toute la terre. Comme une femme abandonnée, tu étais plongée dans le chagrin. Mais ton Dieu déclare, comment peut-on rejeter la femme que l'on a choisie quand on était jeune? Pendant un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te reprends avec moi. Dans un accès momentané de colère, j'ai refusé de te voir. Mais dans mon amour sans fin, je te garde ma tendresse. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis. Moi qui prends ta cause en main. Ensuite, notre espérance, elle est solide parce qu'elle repose sur l'engagement éternel de Dieu en faveur de son peuple. L'engagement éternel de Dieu en faveur de son peuple. Je vais faire aujourd'hui comme au temps de Noé. J'avais promis alors que le déluge ne submergerait plus la terre. Je te promets de même aujourd'hui de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. Quelle garantie nous faudrait-il de plus ? Notre espérance est solide parce qu'elle repose sur l'engagement éternel de Dieu en notre faveur. Notre espérance est solide parce qu'elle repose sur la relation exclusive que Dieu veut avoir avec nous. Que la ville de Dieu soit peuplé, c'est déjà ce que Dieu avait en vue quand il a offert son Messie, le roi serviteur. Souvent, dans les moments de Sainte-Cène, nous lisons, nous méditons Ésaïe 53 qui parle des souffrances du serviteur de l'Éternel, de sa vie qui est donnée à la croix. Mais le chapitre 53 d'Ésaïe se finit ainsi au verset 10. Le Seigneur approuve son serviteur accablé par la souffrance. S'il offre sa vie en offrande à la place des autres, alors il aura des descendants et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fait aboutir le projet du Seigneur. Nous sommes, nous, l'aboutissement du projet du Seigneur. Une descendance nombreuse. Quiconque place sa foi en Jésus, le roi serviteur, pour recevoir le pardon, à l'assurance d'être de cette descendance nombreuse, citoyen de la nouvelle Jérusalem restaurée. Une ville habitée, une ville restaurée, une ville glorieuse. Pour finir de nous rassurer, la fin du chapitre lève un pan du voile sur la perspective finale des choses. De ce côté-ci du sacrifice du roi serviteur, la ville de Dieu sera donc peuplée, restaurée et glorieuse. Glorieuse. Imaginons ce qu'un époux, un mari profondément épris de son épouse serait prête à faire pour la combler de signes tangibles de son amour. Quelles paroles, quels actes, quelles attitudes pour dire son amour. Quelle richesse à partager. Voici la réponse de Dieu. D'abord, il ornera sa vie l'épouse de toute sa gloire et de toute sa beauté. Malheureuse Jérusalem, secouée par la tempête, sans personne pour te réconforter, eh bien moi, dit le Seigneur, je vais te rebâtir en pierre décorée, refaire tes fondations en saphir, le haut de tes murailles en rubis, tes entrées en cristal et tous tes remparts en pierre précieuse. Ensuite, il la maintiendra dans une relation constante et parfaite avec lui. Tes enfants seront tous mes disciples. Ils vivront dans une paix profonde. Enfin, il la protégera définitivement de toute menace. Tu seras vraiment inébranlable. À l'abri de toute oppression, tu n'auras plus rien à craindre. Tu seras délivré de la terreur. Elle ne te menacera plus. Si on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. D'ailleurs, celui qui t'attaquera succombera devant toi. C'est moi, remarque-le, qui crée le forgeron, qui active le feu et qui produit toutes sortes d'armes. Mais c'est moi aussi qui crée celui qui est chargé de les détruire. Toute arme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Celui qui t'accusera au tribunal, tu le feras condamner. Imaginez un peu l'effet sur la vie l'épouse. Au moment d'entendre l'époux s'engager ainsi, tout donner, se donner pour lui offrir cela. Alors mes amis, il existe une ville parfaite, prête pour accueillir en son sein la nouvelle humanité que l'Éternel est en train de recueillir, pardonner, restaurer, dans une relation parfaite, éternelle avec lui, grâce au sacrifice ultime de son roi serviteur. En son sein, au sein de cette ville ultime, de la nouvelle Jérusalem, l'humanité nouvelle chantera pour toujours la gloire du Dieu qui l'a aimé et sauvé et uni à lui pour l'éternité. Là, l'humanité restaurée éclorera dans un potentiel constamment renouvelé pour une relation vivifiante avec son Dieu. Là, sa beauté, sa richesse, sa culture, son génie, sa créativité connaîtront leur expression pleine et entière, toujours vivante, toujours nouvelle, toujours belle aux yeux de Dieu. Constamment orientée vers un amour exclusif à sa louange éternelle, à la gloire de sa grâce infinie. Tout y sera harmonie, unité, paix, joie et justice. Pas de frustration, ni de souffrance, ni de cris, ni de pleurs, plus aucune révolte, ni plus aucun mal, aucun péché, et plus de mort. C'est pour cela que le ciel, la nouvelle Jérusalem, est décrite comme une fête. Le voici, le lieu pour lequel nous avons été créés, le lieu vers lequel convergent toutes nos aspirations de confort et de repos. Notre errance y prendra fin. Nos insatisfactions y seront apaisées. Notre mal-être y trouvera sa paix. Enfin, nous pourrons dire définitivement : je suis à la maison. C'est la Jérusalem nouvelle dont Dieu prépare la venue, si large, si peuplée, tellement à la mesure de sa bonté et de sa grâce abondante, qu'elle remplira toute la terre, dit Habacuc 2,4. Quelle grâce, quelle beauté, qu'elle vienne bientôt, cette ville, et que vienne le jour béni des noces de l'agneau. Le roi serviteur, son épouse, son peuple, sa ville bien-aimée, rassemblés. Et en attendant, n'en déplaise aux sceptiques, loin de nous laisser comme suspendus entre ciel et terre sur un petit nuage irréel et utopique, la seule véritable réalité, certaine et glorieuse, n'est pas celle de ce monde. Parce que ce monde y passe et y trépasse. Seule la ville éternelle demeure, celle qui doit encore venir. Ne pas l'attendre, ne pas bâtir notre vie en fonction, c'est de la folie. C'est passer à côté de la vraie vie. Et cette perspective glorieuse, elle vient impacter directement notre rapport à cette réalité-ci maintenant, à notre manière de concevoir le monde actuel, nos villes et nos campagnes, nos habitations et nos lieux d'activité, tous ces lieux où nous faisons étape, quelques instants seulement. La vie passe à une vitesse. Notre amour pour la véritable vie, ville éternelle, renouvelle notre amour pour la vie présente. Elle nous donne la liberté d'apprécier à sa juste valeur sa beauté dans ses divers aspects, comme des signes tangibles, magnifiques, de la grâce commune de Dieu. Si dans sa bonté, Dieu a décidé d'offrir à nos villes quelque chose de la beauté originelle de l'humanité, c'est pour faire d'elle à la fois un écho lointain d'Éden et un avant-goût imparfait du ciel. Ensuite, notre connaissance croissante de la ville parfaite affûte notre lucidité sur les limites de nos villes imparfaites, de nos lieux temporaires. Que Genève est belle, mais que sa gloire est passagère. Avant elle, combien de villes glorieuses, produits des civilisations passées, se sont laissées griser par leur propre rayonnement, au point de se vouloir éternel. Comme au jour de Babel, Dieu descend régulièrement dans l'histoire pour montrer ce que produit l'orgueil arrogant d'une humanité qu'il veut s'élever sans lui et parfois contre lui. Il renverse ces villes qui prétendent devenir, à la place de la ville définitive, le centre du monde. Alors plus notre regard est tourné vers la beauté de la ville pardonnée, plus nos yeux s'ouvrent sur l'injustice et le mal qui avilissent les villes les plus belles, bruyantes, épuisantes, étouffantes, violentes, arrogantes, injustes, parce qu'elles se bâtissent sans Dieu et demeurent alors esclaves du mal et de la mort. Enfin, notre conscience d'avoir reçu de Dieu le droit unique d'être citoyens et citoyennes pour toujours de sa ville éternelle devrait nourrir notre amour passionné pour les habitants de nos villes temporaires, nos voisins, nos collègues, nos familles, les passants, nos amis, nos ennemis, que beaucoup bénéficient de l'œuvre parfaite du roi serviteur et deviennent elles et eux aussi citoyens, citoyennes de la ville éternelle. En conclusion, je trouve que ce n'est pas un hasard si après nous avoir dépeint le sacrifice du roi serviteur, puis sa victoire couronnée par son ascension, puis la ville prête pour recevoir en son sein un peuple nombreux et bigarré, ce n'est pas un hasard si Ésaïe nous rappelle l'appel bouleversant de Dieu qui court dans chaque rue, dans chaque recoin de chacune de nos villes, et dit, Ésaïe 55, verset 1, « Allons, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez, même si vous n'avez pas d'argent, venez, prenez de quoi manger, c'est gratuit, achetez du vin, achetez du lait, c'est pour rien. » Ce n'est pas un hasard si cet appel d'Ésaïe vient à ce moment-là. Venez, écoutez, croyez, entrez et vivez. Vivez enfin. Amen.
Je propose que nous ayons un petit moment de prière, prière communautaire, peut-être des prières pop. Nous ayons la liberté de pouvoir les exprimer sans que ce soit des grandes phrases où on a peur de les dire, mais simplement des petites prières pop. Et je crois que Philippe nous a donné bien quelques pistes et j'en ai retenu quelques-unes, une ville habitée, une ville restaurée. Et j'ai transposé en une vie habitée par Dieu et une vie restaurée. Après le sacrifice du roi serviteur, c'est le retour à une relation parfaite. Et je crois que notre Père souhaite que nous ayons cette relation parfaite. Et puis pour notre éternité, Dieu nous accueille dans cette nouvelle Jérusalem, dans cette ville parfaite. Alors j'ai envie de dire, venez et vivez. Je vous propose que nous prions, donc des petites prières pop, comme ça chacun se sente libre et pas contraint à faire des grandes phrases. Oui Seigneur, merci parce que tu nous appelles, venez et vivez. Amen.
Dis Seigneur, venez, écoutez, croyez, entrez et vivez. Oui, que nous puissions tous vivre avec toi. Amen.
Amen.
Seigneur, j'étais loin de toi et fracassé, mais tu m'as trouvé et restauré. Je veux te dire ma reconnaissance.
Merci Père pour ce sacrifice à la croix et ta résurrection. Seigneur, qui nous ouvre la porte de cette éternité dans cette ville, sans souffrance, sans mort, et cette belle ville où, Seigneur, nous serons chez nous. Alors, Seigneur, que nous puissions être sensibles à ce sacrifice et cette résurrection où on est appelé à les vivre aussi. Amen. Je propose que nous lever pour chanter.
Toujours te louer.
Merci. Est-ce que Rebecca, on a un petit témoignage du samedi des princesses. Alors merci à Rebecca de nous partager ces bons moments que vous avez passés.
Oui, alors le samedi 20 avril, on avait une journée de princesses ici. On avait 15 petites princesses qui sont venues. On avait même une petite princesse qui s'est inscrite le jour J, le moment où ça a commencé. Et c'était vraiment un temps génial. On était 10 grandes princesses de l'église qui entouraient ces petites princesses ici avec des ateliers de maquillage, de faire les ongles. On a fait une boîte à pépites où elles ont pu ramener des pépites d'or à la maison. Il y avait une chasse au trésor où à la fin, ils ont appris à, OK, c'est quoi tes richesses en toi? C'est quoi les qualités que toi, dans ta vie, ce que Dieu t'a mis dans ta personnalité? Et même nous, en tant que grandes princesses, on était défiés au début. Alors, si nous, on parle des richesses que Dieu a mis dans la vie des petites princesses, mais c'est quoi que Dieu a mis dans notre cœur, dans notre vie? Et il faut dire, c'était pas si facile que ça de trouver des richesses dans ma vie. Heureusement, il y avait une liste qui donnait des idées. Ça nous a aidés pour après encadrer les petites princesses à leur montrer qu'en fait, tu es vraiment plein de richesses. Alors, on avait une super goûter aussi à la fin de l'après-midi préparé par Mireille, et Christelle. Et c'était super. On avait nos robes, comme vous voyez. Elles sont venues avec leurs petites robes. Et il y avait même une défilée à la fin de l'après-midi. Et qu'ils ont pu montrer aux parents les petites danses, les petits gestes. Et avec plein de photos qu'on a fait, avec plein de souvenirs. Et on se réjouit de refaire ça l'année prochaine. Et même les petites princesses, ils ont été déjà prêtes à revenir l'année prochaine. Alors on se réjouit de refaire une après-midi goûter de princesse. Merci.
Merci.
C'est vrai qu'elles sont trop choues. Je vous propose de passer à un temps d'annonce. Alors, la première, ça concerne... J'ai mon petit texte. Hein, conférence de Henri Blecher sur la question du mal. Alors, il y avait déjà une prédication ce matin, mais cet après-midi aussi, donc à la pélisserie, à 13h, il y a une autre conférence, les insuffisances de certaines réponses chrétiennes à la question du mal. Et à 14h15, aussi encore une conférence sur en tolérant le mal, Dieu s'est-il trompé? Donc tout ça à la pélisserie cet après-midi. Ensuite, une autre... Donc il y a des flyers, tout ce que je vous dis là, il y a des flyers à la sortie sur la petite table. Ensuite, l'offrande de printemps de l'AFRE. Donc chaque année, l'AFRE propose une offrande de printemps. Il s'agit de deux projets. Le premier concerne la web radio R, la radio R, donc c'est anciennement la Radio Réveil, qui propose de faire un projet pour les enfants, pour nourrir la foi des enfants par le biais de Radio R. Donc il y a un petit montant qui est demandé, 4000 francs. Donc chacun, vous trouverez aussi des flyers, il y a aussi un bulletin derrière. Et le deuxième projet, c'est de faire briller le message de l'Évangile au Pakistan. Donc vous pourrez tout trouver aussi sur la table d'or. Merci. Ensuite, donc c'est aussi par la FRE, c'est une formation assez conséquente, assez intéressante aussi. Donc, Histoire, Bible et Ancien Testament. C'est dans le cadre de Serge Carrel et de Boris Kretny, notre frère ici. Donc, c'est sur plusieurs semaines où il y a plusieurs thèmes qui seront abordés, notamment sur l'Ancien Testament. Donc, Histoire, Bible et Ancien Testament. Et ça, c'est sur quelques semaines. Donc, il y a aussi des flyers, vous pourrez les trouver pour plus de détails. Et le dernier que je voulais, donc c'est le concert malgache de Ni Aiko, je pense que je prononce juste, Ni Aiko. Donc ça sera vendredi, ici chez nous, ça sera ce vendredi Donc attention, je crois qu'il y a eu une petite erreur sur l'actu. Ce n'est pas à 15h, mais c'est à 19h30. Donc c'est ce vendredi à 19h30. Donc ce concert malgache de Ni Ako. Voilà, je crois que j'ai fini un peu avec les annonces. Ah, vas-y Eric.
Voilà, je crois qu'on m'a entendu. Donc jeudi 23 mai, à la cathédrale Saint-Pierre, il y a une conférence. Je ne sais pas si vous connaissez le thème, j'ai oublié de relever. Ouais. Le jeudi 23 mai à 19h.
Sera recueilli l'offrande, c'était ça?
Oui. Effectivement, je vais vous proposer de vous lever et puis on va passer l'offrande. Merci beaucoup.
Jésus, je te chante pour ce que tu m'as fait.
Alors, je vais prier pour remettre l'offrande, puis après je vous donne la suite. Seigneur Jésus, merci pour ces biens. Merci Seigneur pour pouvoir partager avec toi, Seigneur, et avec notre communauté. Et Seigneur, que tu bénisses cet argent et Seigneur, qu'elle soit utilisée selon ce que tu désires. Amen. Je rappelle aussi qu'il y a toujours le QR code là-bas ou bien qu'il y a le tweet. Et maintenant, c'est vrai que de passer des princesses aux mères de famille, il n'y a qu'un pas. Enfin, il y a encore quelques années, vous me direz. Mais c'est vrai que c'est la fête des mamans et la fête des femmes. Donc, on a un petit attention pour chacune d'entre vous. Alors, joyeuse fête des mamans et joyeuse fête de la femme. Et après, j'inviterai Philippe pour le mot d'envoi.
Il y a tant et tant de façons d'être femme, de donner la vie, de faire fleurir la vie. Mesdames, merci pour ce que vous êtes. Que la grâce et la paix de Dieu reposent sur vous. Je vous invite à vous lever. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous laisse ceci. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été mis à l'épreuve en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. Pendant cette semaine, vous et moi, devant les difficultés que nous pouvons confronter, souvenons-nous que le trône de la grâce est accessible parce que Jésus-Christ a réussi sa mission et qu'il est monté près de Dieu. Le trône de la grâce est ouvert. Bonne semaine, à bientôt.
Non, mais tu viens me les chercher en bas, il n'y a pas de problème.
Il y a pour le café, restez pour un petit moment familial.
On aura quelques belles roses pour ta femme. Oui, très bien.